Il y a quelques semaines à Madagascar, cette image de carte postale a été entachée d'un drame. Aurélien est le gardien de cette belle maison, avec vue sur la baie de Diego Suarez. Elle appartient à un couple de Français. Le 12 février dernier, en pleine nuit, il entend plusieurs détonations.
Voilà, ça c'est ma maison. C'est ici que j'ai entendu les coups de feu. Et là, c'est la maison de mes patrons. J'ai vu les intrus. L'un d'eux avait une torche à la main. J'ai entendu crier « Tuez-le !»
Quand le gardien arrive sur les lieux, il est déjà trop tard.
Voici la chambre où l'on a trouvé les deux corps. Je suis rentré, il y avait du sang partout.
Ce soir-là, Sylvain Thorin, 64 ans, marin à la retraite, et sa compagne Marinette, médecin, fêtent-elle à Saint-Valentin.
C'est ici que mon patron a reçu une balle, et elle est ressortie par là. Une autre est entrée par la nuque, et elle est ressortie par ici. Ma patronne, elle, a reçu un coup de hache sur la tête et sur la main. On a accroché au balcon les vêtements. En haut, c'est la serviette de madame. À côté, le pantalon de monsieur. Et en dessous, il y a aussi son pagne. Ici, on croit qu'on pourrait arrêter les coupables si on expose les vêtements que portaient les victimes à leur mort.
Ce cambriolage meurtrier vient s'ajouter à une longue liste d'attaques de Français à Madagascar. L'île se trouve au sud-est de l'Afrique, à plus de 8500 km de la France. Ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et son soleil, 6500 Français y vivent toute l'année. Mais depuis un an, le joyau de l'océan Indien serait devenu l'île de tous les dangers pour les expatriés. Rien qu'en 2015, 8 Français ont été tués sur l'île dans des conditions similaires à Sylvain et Marinette. Des crimes toujours plus barbares qui plongent les résidents français dans la terreur.
Tous les résidents sortent pratiquement plus, c'est quasiment banni, puisque le soir, tout le monde craint de rentrer chez soi et de retrouver des assaillants.
Marinette et Sylvain, eux, n'avaient pas peur. D'ailleurs, ils venaient tout juste de démarrer une nouvelle vie. Sylvain est né à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman.
Voilà, c'est là qu'on est venu faire notre adieu à Sylvain. C'est un lac qu'il aimait bien. Il a navigué beaucoup avec moi ici sur ce lac.
La mer a toujours attiré Sylvain et très vite, le lac est devenu trop petit pour ses rêves de navigateur. C'est donc tout naturellement qu'à 18 ans, Sylvain s'engage comme mécanicien dans la Marine nationale.
Il était très doué pour tout ce qui était mécanique, bateau et aussi un très bon navigateur. Il avait une vie aventurière un peu.
C'était quelqu'un de sympa et il se faisait toujours plein d'amis.
Le baroudeur sillonne toutes les mers du monde. Mais c'est en France que le célibataire endurci tombe sous le charme de Marinette, un médecin français d'origine malgache.
Sylvain a rencontré Marinette à Toulouse. Ils étaient très amoureux et c'est sûr que c'était... C'est ce qu'il voulait. C'était finir sa vie avec Marinette et voilà.
Pendant 10 ans, le couple se voit très peu, éloigné par les voyages de Sylvain. À 64 ans, l'aventurier décide de jeter l'ancre. Son port d'attache est tout trouvé. Ce sera Madagascar, le pays d'origine de sa compagne.
Donc c'est là qu'ils ont décidé d'acheter du terrain vers Diego et qu'ils ont construit la maison. C'était au nouvel an cette année, dans la maison qui était juste finie.
Alors que Sylvain profite de sa retraite sous les cocotiers, Marinette travaille comme médecin à l'hôpital et s'occupe de son école de formation pour infirmière. Son frère ne comprend pas pourquoi on l'a assassiné.
Marinette était très populaire. Elle soignait tout le monde. Elle faisait même crédit aux pauvres. Elle recevait toujours les patients qui venaient frapper à sa porte.
Pour Charles, le meilleur ami de Sylvain, le mobile du crime ne fait aucun doute.
Et ils avaient quand même une réussite, ils avaient fait une belle maison. Est-ce que les jalousies peuvent expliquer tout ça? Ils avaient certainement un peu d'argent, donc est-ce que ça se savait?
Depuis le dernier coup d'État de 2009, le pays est l'un des plus pauvres de la planète. La misère s'est généralisée et ne cesse de croître. 92% de la population vit avec moins de 2 euros par jour. L'île est à l'agonie et elle connaît une recrudescence de cambriolages, de plus en plus meurtriers et de plus en plus ciblés. Marc, militaire français à la retraite, est installé depuis 28 ans à Tananarive, la capitale de Madagascar. Ces derniers temps, il a vu la situation se dégrader.
À partir du moment où on perd ses biens, bon, on reste en vie, c'est une chose. À partir du moment où on perd et sa vie et celle de sa famille, c'est autre chose. On est monté d'un cran, on va dire. Et les cambriolages se faisaient, on va dire, plus gentiment. Bon, on baïonnait les gens, on leur piquait leur téléphone, leurs biens, un peu d'argent, les bijoux, etc. Et maintenant, il peut y avoir, on va dire, le meurtre, quoi, la tuerie gratuite, quoi, barbare. C'est ce qui s'est passé à différents endroits dans l'île en 2015.
Aujourd'hui, Marc, lui aussi, craint pour sa vie.
J'ai un couple d'amis qui a été agressé et le couple est décédé. L'ancien consul que je connaissais bien de Fianarantsoa a été agressé, torturé, et il a fini par être étranglé. Ça reste présent, très présent à l'esprit, dans le sens où je suis peut-être le prochain sur la liste, quoi.
Et ce qui n'est pas pour rassurer les expatriés. Sur les 8 meurtres de Français en 2015, aucun coupable n'a été interpellé. Il faut dire que les enquêtes à Madagascar tournent souvent court. Ce jour-là, accompagné d'un ami de Sylvain et Marinette, nous avons pu assister aux constatations effectuées par la police sur la scène du crime.
Monsieur, bonjour.
Chargé de la police judiciaire.
Moi, je suis un ami du couple.
Ah, bon. J'ai mangé Marinette et Monsieur Thérin.
Voilà, j'ai mangé avec eux 15 jours avant et... Je peux vous poser une question?
Oui. Ne filmez pas, s'il vous plaît, monsieur. Oui.
On a entendu parler de 3 individus qui auraient été appréhendés sur les 4. Est-ce que c'est vrai?
C'est la gendarmerie qui est chargée de l'affaire. Nous, la police, subsidiairement, nous amenons une enquête parallèle. Donc, vous demandez, vous adressez ces messieurs.
Parfait.
Je vous remercie.
Je vous en prie. Donc vous avez entendu la question.
Il faut mieux aller directement au responsable de l'enquête.
Personne ne communique sur une enquête en cours. Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, nous sommes surpris de voir qu'une demi-heure plus tard, certains enquêteurs font la sieste sur les lieux du crime. L'ami du couple n'en revient pas.
On ne voit pas beaucoup de mobilisation au niveau des enquêtes de police, et encore moins de résultats.
Il faut dire qu'à Madagascar, selon la procureure en charge de l'affaire, la police manque de tout.
On est en train de faire les investigations nécessaires pour attraper les malfrats. On commence à avoir des pistes, mais c'est difficile. Comme nous manquons de moyens, il n'y a pas de matériel pour la police scientifique.
Alors comment vous faites pour trouver des coupables?
Avec le moyen du port.
Mais ce ne serait pas la seule raison du manque de résultats des enquêteurs. Un mal bien plus préoccupant rongerait le pays, selon un expatrié français que nous avons pu contacter.
Tout le monde le sait, chez les Malgaches, mais ici, il ne faut pas d'enquête, ils s'arrangent entre eux, la police. Ils sont intouchables ici, la police ou la gendarmerie. Les premiers corrompus, c'est la gendarmerie, après c'est la justice et après c'est la police.
Le salaire d'un policier tourne autour de 150 euros, alors certains arrondiraient leur fin de mois en s'improvisant loueur.
Qui c'est qui a la Kalachnikov ici? C'est la police, la gendarmerie et l'armée. bureau le week-end, il la loue à des truands pour faire des coups aussi. Ici, on donne 100 000 arias à un mec, il tue quelqu'un, hein, ça fait 30 euros. La vie n'a aucune valeur ici, alors ils s'en foutent. Hein.
La situation n'est pas prête de s'arranger. Sur la liste des pays les plus pauvres du monde, Madagascar serait passé de la 5e à la 3e position. Un classement qui a fait peur à la clientèle française de Francis, commerçant à Diego Suarez.
Au niveau des Français, ça ne s'était jamais produit, bien entendu. On n'avait jamais eu ce phénomène d'insécurité. C'est nouveau. On est en train de s'enliser petit à petit dans un chaos que l'on ne connaissait pas.
Il y a énormément d'Européens qui, aujourd'hui, ne pensent qu'à une chose, c'est quitter la ville. Quoi.
Selon l'ambassade de France, 7% des Français ont quitté le pays. Pour les autres, une seule solution, se barricader. À Tananarive, la capitale, nous retrouvons Marc. Pour lui, hors de question de quitter l'île rouge. L'insécurité, il en a fait son business. Système d'alarme, barbelés, clôtures électriques ou portes blindées. L'homme transforme les maisons d'expatriés en bunkers imprenables.
Voilà un exemple de maison très sécurisée où on a des barbelés, une caméra PTZ qui tourne sur 360 degrés. Ça, c'est des équipements qui sont commercialisés dans le pays depuis 4 ou 5 ans.
Marc nous emmène dans un lotissement plutôt huppé pour expatriés, au cœur de la capitale. Pas moins de 3 barrières et 2 postes de garde en protègent l'accès. Marc vient vérifier l'avancée des travaux.
Bon, ici, on va voir quelques petits soucis. Il va falloir, il y a énormément de végétation. Ça, c'est un point négatif, on va dire. C'est-à-dire, il va y avoir des grilles. Et au-dessus, on va mettre la clôture électrique sur 4 fils.
Et au cas où cela ne suffirait pas, Marc a prévu une panic room, une chambre forte tout aménagée où les propriétaires peuvent se réfugier en cas d'attaque.
Voilà, ça c'est la panic room. Donc là, c'est la partie couchage où on peut s'isoler complètement. Alors ici, on a une porte blindée, donc avec trois énormes charnières placées à l'intérieur, donc on ne peut pas couper de l'extérieur. Il y a plusieurs chambres, il y a les commodités, il y a une salle de bain, et ça permet d'attendre l'arrivée des secours et des forces de police.
Malheureusement, la maison de Marinette et Sylvain ne possédait pas de tel système de sécurité. En France, Charles espère que le meurtre de son meilleur ami et de sa compagne ne restera pas, pour une fois, impuni.
On aimerait beaucoup que cette enquête, que les gens soient arrêtés, que ce pays montre quand même qu'il y a une justice qui existe, qu'il y a... Ça, c'est très important pour nous, qu'on sache exactement qui sont les coupables, bien sûr.